Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, fuir une guerre pour participer à une autre en échange de quelques centaines de dollars. C'est le choix de milliers d'Afghans chiites enrôlés aux côtés de l'armée syrienne. La crise économique qui s'ajoute au conflit qui dure depuis 40 ans en Afghanistan pousse des adolescents, des hommes de tous âges à fuir en Iran voisin où la promesse d'un permis de séjour et d'une solde alléchante les incite à rejoindre les brigades des Fatimides. Ils sont des milliers à mourir au front où ils sont en première ligne et à Kaboul, les autorités gardent le silence. Les combattants afghans de l'armée syrienne, grand reportage de Humayun Babar et Sonia Ghezali.
Des dizaines d'hommes passent le portail de la mosquée, tête baissée, un tasbir, un chapelet dans la main droite. Ils quittent la ruelle non asphaltée, évitant les flaques boueuses. Dans leur dos, sur le mur de l'édifice religieux, un large tissu noir est épinglé avec le portrait du jeune Habib Hashimi.
C'est la photo de mon meilleur ami. Il est mort en martyr en Syrie.
Ayidullah grimpe sur le muret pour décrocher la toile dressée pour les funérailles de ce copain d'enfance qui pose en tenue militaire une kalachnikov entre les mains. Habib est mort en Syrie en combattant dans les rangs de l'armée de Bachar al-Assad.
Il m'avait envoyé cette photo sur Internet, sur Facebook. Je l'ai téléchargée et je l'ai faite imprimer.
Habib avait 18 ans. La cérémonie de ses funérailles a eu lieu dans cette petite mosquée située dans l'ouest de Kaboul, dans un quartier à majorité chiite. Des obsèques sans dépouille. Le corps du jeune homme est peut-être encore en Syrie, peut-être en Iran, là où il a été recruté. Quelles raisons ont poussé ce jeune Afghan à quitter son pays alors qu'il était encore mineur pour participer à un conflit étranger? Il serait des milliers en Afghanistan à avoir fait ce choix. La plupart d'entre eux appartiennent à la communauté Hazara, largement chiite.
Je m'appelle Ayidullah Mahamadi. Je vis dans le quartier de Dashtebarchi.
Ayidullah a grandi avec Habib dans ce quartier de la capitale afghane. Après le départ de son ami, ils ont continué à correspondre via Facebook.
Habib est parti en Iran, puis en Syrie avec d'autres personnes. Son objectif était de combattre Daesh, parce que le groupe terroriste tue des chiites en Afghanistan et dans d'autres pays. Ici et ailleurs, ils attaquent les mosquées chiites. Habib est alors parti avec d'autres amis pour se battre contre eux en Syrie et se venger.
Habib avait intégré l'armée afghane. Il avait servi dans le sud du pays, en grande partie contrôlé par les talibans, où les combats font rage, avant de décider de quitter le pays.
Il avait cette idée en tête depuis longtemps. Il avait été soldat dans la province du Helmand et dans d'autres régions du pays. Il m'avait raconté comment le gouvernement libérait les combattants de Daesh après les avoir arrêtés. Ça l'avait beaucoup choqué et déçu. Il a décidé de démissionner, puis il est parti en Syrie. Une fois là-bas, il m'a annoncé qu'il voulait aller en Syrie pour combattre le groupe terroriste et réaliser ce projet qui lui tenait à cœur.
Les attaques revendiquées par le groupe État islamique en Afghanistan contre les chiites se sont multipliées ces deux dernières années. Certaines voix s'élèvent pour accuser le gouvernement de ne pas protéger la minorité chiite, environ 15 à 20% de la population afghane. Habib serait donc parti venger les siens, faute de pouvoir les protéger dans son propre pays, l'Afghanistan, embourbé dans un conflit de plus de 40 ans, une guerre civile qui oppose talibans et forces gouvernementales, avec un nouveau front depuis 2 ans et demi, ouvert par l'État islamique du Khorasan, appellation locale du groupe terroriste qui sévit en Irak et en Syrie. Dans la cour de la mosquée, Ali Mohamad a une toute autre version. Il dit avoir travaillé avec le jeune Habib sur des chantiers de construction.
Avant de quitter le pays, il nous avait parlé de son projet. Habib nous a dit : dans ce pays, je n'ai aucun avenir. Je ne peux pas régler mes problèmes financiers. Il n'y a pas de travail. Je dois partir pour l'Iran. Voilà ce qu'il nous a dit. Il n'avait pas d'argent pour payer les passeurs pour aller en Iran. À la frontière, il leur a dit qu'il les paierait dès qu'il trouverait du travail. Son voyage n'a pas été simple. Il a eu beaucoup de problèmes avant de passer la frontière.
Pour ce père de famille de 37 ans, les raisons qui poussent les jeunes Afghans à aller se battre en Syrie sont tout simplement financières.
La raison pour laquelle les jeunes partent en Syrie, ce sont des raisons économiques. Ici, il n'y a pas de travail. C'est très compliqué de trouver du travail. Vous pouvez trouver du travail 2 jours par semaine. Mais comment faire quand on a 10 personnes à charge? On ne peut pas subvenir aux besoins de nos familles. On ne peut pas prendre soin d'elles. C'est pour cette raison qu'Habib est parti en Syrie.
Sur les marches qui mènent à la salle de prière, un homme au trait tiré, les mains calleuses, le visage enfoui dans un chèche, acquiesce. Lui aussi a connu Habib sur les chantiers de construction de la capitale afghane.
Nous avons travaillé ensemble. On travaille 2 jours par semaine. On gagne entre 300 et 350 afghanis par jour, environ 4 euros. On commence à 5 heures du matin pour finir vers 5 heures du soir. J'ai 10 personnes à ma charge. Je paye 3000 afghanis pour le loyer, 37 euros. Il faut autant pour payer l'électricité et l'eau. Comment y arriver? C'est impossible. Et ici, tout le monde vit la même chose. Alors bien sûr que les jeunes partent en Iran. Ils se disent qu'ils trouveront du travail, qu'ils auront une belle situation. Mais là-bas, des personnes arrivent à les embrigader et les embarquent dans la guerre en Syrie. Les jeunes les suivent, mais sans vraiment savoir ce qui les attend. Ils sont très jeunes souvent et sont tués sur le front.
Entouré d'une dizaine de fidèles, le mollah d'une mosquée voisine, venu assister aux funérailles, s'apprête à quitter les lieux. Il se lance dans un prêche improvisé, récite une prière. Ce religieux dit avoir assisté à de nombreuses cérémonies de funérailles comme celle-ci ces dernières années. Il n'y a jamais de sépulture, les proches des défunts viennent avec ou sans photo de leurs fils, neveux, cousins, frères tombés en Syrie.
Ces jeunes ne viennent pas nous consulter avant de partir parce qu'ils savent très bien qu'on essaiera de les dissuader, qu'on les incitera à rester chez eux et à ne se battre que pour leur propre pays, pas pour des pays étrangers. On sait très bien que ces personnes partent pour des raisons économiques.
Pour le mollah, le facteur économique comme motivation est évident. Ceux qui sont partis et qui sont revenus en Afghanistan sains et saufs le reconnaissent. Ils sont rares à accepter de témoigner. Tous se disent effrayés d'être reconnus par les services de sécurité afghans ou par les services de renseignement iraniens. Ali a 21 ans. Il a grandi dans l'ouest de l'Afghanistan.
On m'a proposé beaucoup d'argent. J'en avais marre de travailler. J'étais épuisé. Alors j'ai décidé de partir en Syrie.
Il a 16 ans quand il quitte l'Afghanistan pour l'Iran.
Je travaillais dans la maçonnerie. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, dès mon arrivée en Iran. Je gagnais moins d'1 million de tomans iraniens, même pas 200 dollars. Quand j'étais en Afghanistan, mon objectif était d'étudier, mais on a eu des problèmes financiers dans ma famille. Je suis alors parti travailler en Iran. Je voulais gagner de l'argent pour pouvoir partir en Europe, mais je n'ai pas réussi à réunir la somme nécessaire pour partir. Par contre, on nous proposait beaucoup d'argent pour aller en Syrie, alors j'ai accepté.
Le jeune homme a l'allure d'un adolescent, le rire facile. Il fait partie des premiers à s'engager dans les rangs de l'armée de Bachar el-Assad en Syrie. L'année 2014 va marquer un tournant dans sa vie.
À l'époque, il n'y avait pas encore d'endroit en particulier pour s'inscrire, pour aller en Syrie. Il n'y avait pas de bureau. L'Iran n'avait pas encore décidé d'envoyer des soldats se battre là-bas. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des offices, mais pour ma part, je suis allé dans un parc rencontrer un homme qui s'occupait de ça. Je ne le connaissais pas. Il se faisait appeler Rezaï. Il était afghan et il travaillait pour les Pasdaran, les gardiens de la révolution islamique en Iran.
Cette rencontre a eu lieu à Téhéran, mais ce processus de recrutement existait dans d'autres villes iraniennes, explique Ali, qui cite Ispahan ou Mashhad, près de la frontière avec l'Afghanistan.
Ils nous ont donné des formulaires à signer. Ensuite, on a passé une formation de 15 jours avant de nous envoyer en Syrie. On était sur la base militaire de Varamin, à l'est de Téhéran. On s'entraînait jour et nuit. C'était très difficile, très difficile. On devait rester éveillé la nuit, marcher sans s'arrêter durant des heures, apprendre à fouiller des maisons, à viser avec des armes, à tirer.
Un entraînement militaire qui a duré 2 semaines et qui était associé à des prêches permanents dirigés par des mollahs qui encourageaient à la défense des lieux saints chiites qui se trouvent en Syrie et en Irak. Ali est ensuite envoyé à Damas, la capitale syrienne. Il y rejoint les Fatimiyoun, autrement dit le bataillon des Fatimides, nom donné aux combattants chiites afghans. Il fait partie des fantassins. Avec lui, d'autres sont chargés de conduire des tanks lors des opérations de combat.
On était dans un camp et on nous envoyait à différents endroits. Notre rôle était de casser la ligne. C'est-à-dire qu'on nous envoyait sur le front, en première ligne, pour combattre Daesh. Dès que l'on prenait le contrôle de la zone, l'armée syrienne arrivait pour prendre le relais.
Il reste 2 mois en Syrie avant de rentrer en Afghanistan sous les supplications de sa mère. De cette période, il dit ne garder que de bons souvenirs.
Je me souviens des premiers jours. C'était la première fois que je voyais vraiment ce qu'était la guerre. C'était difficile et impressionnant. Difficile parce qu'on avait tous peur de mourir et que l'on n'avait jamais fait la guerre avant. Mais on avait de bons moments aussi. On était entre potes, c'était bien. Il y avait des moments drôles. Quand on se mélangeait, par exemple, avec des Syriens. Ils parlaient arabe et nous, on ne comprenait rien, mais on se parlait quand même. Ça nous faisait rire, c'était bien.
La guerre en Syrie, Ali en parle un peu comme d'un jeu vidéo vécu avec des camarades confrontés aux mêmes difficultés quotidiennes. Il parle avec nostalgie d'une période de vie insouciante, d'une guerre à laquelle il ne comprenait pas grand-chose, avoue-t-il.
On n'avait pas accès à Internet ni à la télévision. On n'avait aucun moyen de comprendre ce qu'on faisait. On n'avait pas accès aux informations, on ne nous disait rien. On combattait l'ennemi, c'est tout. Je ne savais même pas où on était exactement parfois, ni la date du jour.
L'Iran, allié du pouvoir syrien, promet aux Afghans qui s'engagent en Syrie des permis de séjour de 10 ans. En réalité, même si certains finissent par effectivement l'obtenir, le conserver est difficile, les autorités iraniennes exigeant un renouvellement chaque année. En Afghanistan, les autorités, elles, évoquent peu le sujet. Rouyana Azad est membre du Parlement, elle est représentante des habitants de la province de Ouzgan depuis 7 ans et n'est affiliée à aucun parti politique.
Non, nous ne parlons pas de cela au Parlement, y compris moi, je n'en parle pas. La raison est que personne n'est prêt à prendre des risques, parce que c'est un grand jeu géopolitique. Plusieurs pays sont impliqués, en particulier leurs services de renseignement. Tout le monde a peur, j'ai aussi peur. Je n'ai jamais parlé de ce sujet ouvertement, je l'ai juste abordé dans des commissions restreintes.
Lorsque l'on insiste pour connaître les raisons de cette appréhension qui scelle les lèvres des autorités, la députée insiste également.
C'est un grand jeu et personne n'a envie de prendre de risques. Si quelqu'un parle librement, il risque d'être assassiné à Kaboul ou ailleurs. Il y a aussi le risque de perdre sa place au Parlement. C'est un sujet très très sensible. Tout le monde se montre très prudent. De nombreuses agences de renseignement sont impliquées et cela effraie tout le monde.
Embarrassée, elle fait un signe négatif de la tête et dit préférer ne pas s'étendre sur le sujet. Au Parlement afghan, Jafar Madawi, un autre député appartenant à la minorité Hazara, confie son analyse.
Quand on regarde la situation au Moyen-Orient, de façon générale, on retrouve deux principaux facteurs. La pauvreté et les violences sectaires chiites sunnites. L'Afghanistan fait face à des problèmes similaires que l'on voit en Syrie et en Irak. L'Afghanistan est parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est principalement à cause de la pauvreté que de jeunes Afghans vont combattre pour des pays étrangers.
L'Afghanistan est traversé et malmené par différents courants d'influence provenant de plusieurs pays, selon lui.
L'Arabie saoudite recrute des combattants dans l'est du pays en invoquant l'importance du pèlerinage. Ils envoient ces hommes au Yémen combattre les chiites houthis. Le Qatar recrute aussi des hommes et les envoie en Syrie combattre dans le front al-Nosra ou rejoindre Daesh contre Bachar al-Assad. L'Iran fait la même chose. Il recrute des combattants pauvres, mais pour aller se battre dans les rangs de l'armée syrienne. La plupart de ces hommes partent pour des raisons financières, peu pour des questions idéologiques.
À Kaboul, les autorités afghanes, mais aussi des responsables américains, ne cachent pas leur vive préoccupation de voir dans un futur proche le conflit sunnite-chiite prendre une ampleur dramatique. Une crainte partagée par l'analyste Seydou Lawaidi.
Quand des milliers de jeunes hommes partent en Iran rejoindre la ligne de front, passent du temps avec Daesh, avec des groupes criminels, assassinant des gens, utilisant des armes chimiques pour tuer, comment peut-on envisager leur retour au sein de la société? Dans quel état d'esprit sont-ils? Ils restent des terroristes et des extrémistes, pas des personnes en paix qui peuvent vivre une vie normale. Quel sera l'avenir de ces personnes entraînées en Iran et qui ont combattu en Syrie? C'est la question qu'il faut se poser. Quand ces personnes seront de retour en Afghanistan, elles constitueront le deuxième Hezbollah pour l'Iran. Il n'y a aucune garantie que ces combattants puissent revenir à la vie normale. Quand on est lié à des services de renseignement, on l'est à vie. Ils pourront facilement être instrumentalisés tout au long de leur vie. Il n'y a aucune garantie pour la sécurité en Afghanistan.
Entre 10 000 et 20 000 Afghans combattraient dans les rangs de l'armée syrienne. Des hommes, souvent recrutés dans le flot de réfugiés présents sur le sol iranien. Des exilés afghans, désespérés, qui ont fui le conflit qui déchire leur pays pour se jeter dans un autre, transformé en chair à canon, en échange de quelques centaines de dollars. Les combattants afghans de l'armée syrienne, un grand reportage d'Oumayoun Babar et de Sonia Ghezali, réalisé par Pierre Chaffangeon.